franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, le séquençage du génome humain avec Arnold Muni.
Ça veut dire égrener un à un tous les constituants de l'ADN. Il y a 3 milliards de constituants électroniques, 3 milliards, répartis en 23 paires de chromosomes. Ça fait environ 35 000 gènes.
Ouais. On a tous 35 000 gènes.
35 000 gènes. Mais ce qui est extraordinairement important à comprendre pour les auditeurs, pour vous aussi, Mathieu, c'est que on n'a pas les uns un bon génome, les autres un mauvais génome. On a tous tout plein d'anomalies dans notre génome. On a une centaine d'anomalies, c'est ça que nous a appris
Donc dès la naissance, on est avec ces
vous
anomalies.
Vous arrivez parce que vos parents en étaient porteurs et qui vous l'ont transmis. Et parfois, il y a des incidents qui arrivent, mais on a tous au moins, maintenant qu'on peut le dire, puisqu'on séquence, on a une centaine d'anomalies et on les exprime pas. Donc c'est vous dire combien est illusoire la médecine prédictive. Parce qu'on peut très bien avoir un variant et ne jamais l'exprimer.
Ouais, et pourquoi alors justement il n'y a pas ce passage, on va dire, du off au on?
C'est très intéressant cette question. D'abord, si vous avez un parent qui porte, qui vous transmet un caractère, mais que l'autre parent transmet un caractère normal, tout va bien. Mais si au contraire, vous avez un variant qui est dubitatif, mais qu'il ne s'exprime pas parce qu'il est réduit au silence, tout ira bien aussi. Donc le problème de la médecine prédictive, ce pourquoi je m'élève avec beaucoup de collègues qui ont le courage aussi leurs opinions, comme moi, contre cette escroquerie, cette fimistérie qu'est la médecine prédictive, c'est que, en réalité, il s'agit d'une probabilité faible de voir son risque accru de quelques pourcents. Donc le facteur multiplicatif est extrêmement faible, premièrement. Et la deuxième raison de se méfier de ces tests, c'est que c'est un résultat en population en général. Ça ne vous apprend rien sur votre statut. C'est comme si je me postais à la sortie de votre bureau de vote et qu'en regardant la moyenne des suffrages du bureau de vote, je prédis ce que vous avez voté.
Pourtant, c'est la promesse qu'on nous fait quand on fait un test prédictif, Lise Barney. C'est d'ailleurs une sorte de carte d'identité vraiment individuelle, là. Hein.
Oui, c'est vrai.
L'interprétation
mais...
est ne peut être que collective. Et l'interprétation est fausse.
Mardi, le plaisir sexuel dans le règne animal avec Jean-François Dortier et Pierre-Henri Gouillon.
Oui, l'exemple des bonobos est emblématique. Il est toujours cité pour montrer qu'il serait un peu à part dans le monde animal. Il nous rapprocherait des humains qui, eux, auraient une sorte de sexualité débridée. Alors que chez les autres primates ou les mammifères, la sexualité serait uniquement à des fins de reproduction. Le bonobo serait entre les deux. En réalité, on a découvert aujourd'hui qu'il y a une sexualité débridée chez plein d'autres espèces. Et pas simplement les bonobos. Vous avez des orang-outans qui utilisent des bâtons comme sextoy.
Ah oui, il y avait des questions là-dessus, justement.
Bien
si
sûr.
Certaines espèces utilisent des objets. C'est Christophe
sur Twitter. Vous savez, des dauphins qui vont utiliser pour se masturber des bouches de poissons ouvertes, des poissons morts ouverts. Ouais. Vous avez des pratiques chez les chauves-souris de cunnilingus. Ouais. Vous avez donc des écureuils qui se masturbent. Le plaisir sexuel débridé existe dans le monde animal au-delà uniquement des humains et des cousins bonobos. Oui.
D'autres exemples?
Non, mais la masturbation, s'il suffit d'avoir un chien pour
avoir un chat. Faut pas aller très très loin, effectivement. Et il utilise aussi des objets, d'ailleurs, pour se donner plaisir. Nancy nous dit, toutes les fonctions sexuelles, manger, boire, dormir, se reproduire, sont liées au plaisir. Est-ce que c'est une ruse de la nature pour obliger à remplir la fonction?
Ah bah, c'est une manière de voir les choses. En tout cas, d'ailleurs, elle a été exprimée aussi bien par des biologistes que par Nietzsche. Dans Zarathoustra, il dit ça très bien, que on donne du plaisir à l'individu quand il fait ce pour quoi il est destiné. Et ce pour quoi il est destiné, c'est à survivre et à reproduire ses informations génétiques. Donc effectivement, le plaisir, c'est certainement une manière de faire aux individus ce pour quoi ils ont été construits par l'évolution, en quelque sorte.
Mercredi, quand la science du toucher éclaire l'art de la caresse avec Sébastien Boller.
Souvent, quand on parle du toucher, on confond un petit peu tout. Si je dis je touche cette table ou je touche ce stylo, j'utilise effectivement des fibres qui sont connues depuis très longtemps, des neurones qui s'appellent des fibres de type A, qui ont une fonction pratique, en fait, pour agir sur notre environnement. C'est rien d'émotionnel, c'est pour savoir où notre corps se situe, pour voir quels objets on déplace, comment on les déplace. Mais plus récemment, on a découvert un autre type de fibres tactiles qu'on appelle les fibres de type CT, T pour tactile, fibre CT, voilà. Et ces fibres-là, elles sont très différentes des fibres A, parce que les fibres de type A, elles conduisent la formation très très vite. C'est-à-dire que si vous piquez avec un clou, c'est une fibre de type A qui réagit instantanément. Mm-hmm. L'influx nerveux se propage de votre pied qui a marché sur le cou jusqu'à votre cerveau à la vitesse d'un TGV. Hein. Donc c'est 100 mètres par seconde, c'est instantané. Mais ces fibres tactiles, elles réagissent beaucoup plus lentement, à la vitesse d'un mètre par seconde. L'influx nerveux met un petit peu de temps pour arriver jusqu'à votre cerveau.
Mm-hmm. On imagine la caresse,
mais
par
voilà,
exemple.
C'est, hein, voilà, c'est la caresse, exactement. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça se propage plus lentement? C'est parce qu'elles sont dépourvues de cette gaine de myéline. Vous savez, la myéline, c'est une espèce de gaine graisseuse qui entoure les neurones, protège, et qui, hein, accélère, en fait, l'influx nerveux. Alors, elles, comme par un fait exprès, elles sont dépourvues de cette gaine de myéline et elles conduisent l'information beaucoup plus lentement. Il faut le temps que ce toucher s'installe. Et on a découvert, en plus, qu'elles sont activées quand on caresse la peau, donc quand on stimule la peau par un glissement à une vitesse très précise de 5 cm par seconde. C'est-à-dire que si vous caressez trop vite,
ouais, ça marche pas.
À 15 mètres par seconde,
ça marche pas de la même manière.
Une technique érotique à développer.
Voilà, il faut devenir scientifique de la caresse. Et ou trop lentement, ça marche pas non plus. Mais en fait, on le fait instinctivement. On sait une caresse, on le fait, et c'est 5 cm par seconde. Ouais. On voit qu'à ce moment-là, ces neurones déchargent très très fortement, et que le signal est adressé à une partie de notre cerveau qui s'appelle l'insula. Une partie, un repli du cortex cérébral qui centralise beaucoup d'informations sur notre état interne, l'homéostasie, la concentration en sels minéraux, la pression sanguine, tout ce qui est la sensation viscérale est concentré par l'insula, et y compris les caresses. Donc les caresses ont une dimension viscérale, et cette partie de notre cerveau est connectée aussi à ce qu'on appelle le circuit de la récompense, donc ce qui est impliqué dans tous les plaisirs, hein, quels qu'ils soient, du sexe aux drogues, en passant par le fait de manger son plat préféré. Il y a des interactions entre la viscéralité, le plaisir et le toucher, voilà, et ces fibres-là.
Jeudi, le développement personnel, une notion mal comprise, avec Mathieu Ricard.
Parce que très souvent, ça a été un peu récupéré, il faut le dire, parce que les gens, on est un petit peu dans l'âge du narcissisme, ou tout au moins de l'individualisme. Aux États-Unis, on parle même d'une épidémie du narcissisme. Hein, une très bonne scientifique, Jane Twenge, a écrit tout un livre là-dessus. Donc c'est un risque. Donc c'est vrai que le développement personnel pourrait être récupéré. On se met confortablement dans le cocon de la bulle de l'ego. On médite comme dans un spa, une sorte de spa spirituel. Et foutez-moi la paix, je médite. Donc si vous voulez, donc le développement personnel pour un petit peu bichonner le narcissisme, c'est franchement là, ouais, c'est très triste. Mais oui, développement personnel, mais pour qui et pourquoi? Donc si c'est pour devenir, comme dit Christophe, un meilleur être humain. Et de ce fait, de pouvoir se mettre mieux au service des autres, parce qu'on se sent moins vulnérable. Si vous êtes tout le temps vulnérable, vous voulez protéger cet égo aussi fragile ou autre. Donc vous êtes très méfiant du monde extérieur, puis après vous essayez de l'instrumentaliser pour parvenir à vos fins. Si vous avez cette certaine robustesse, puisque maintenant c'est un mot que nous employons,
voilà,
plus
on
souvent,
peut l'adopter.
Et bien à ce moment-là, vous êtes moins, vous savez que vous allez retomber sur vos pattes un peu comme un chat qu'on lance en l'air, et de ce fait, vous êtes beaucoup plus ouvert et disponible aux autres. Vous avez l'occasion d'y penser parce que vous n'êtes pas trop préoccupé par vous-même. Donc, développement personnel, mais dans le sens de transformation intérieure pour mieux se mettre au service des autres.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de La Tête au Carré.